Chapitre 7. 15 ans. À 15 ans, l'ado accède à une pensée en 3D. Son cerveau lui permet de saisir que tout n'est pas blanc ou noir, mais complexe, et que selon le point de vue où l'on se place, on voit les choses différemment. Les parents chutent définitivement de leur piédestal. Elle les voit désormais comme terriblement normaux et imparfaits, d'une banalité qui l'insupporte. Elle prend ses distances. L'ado de 15 ans remet en cause les adultes et veut refaire le monde. Certains s'engagent dans des activités bénévoles, se dédient à une cause, créent un groupe, une association. D'autres sont terrassés par l'impuissance. Ils se sentent sans pouvoir, contraints, d'autant plus s'ils sont en difficulté dans leurs études. La vulnérabilité au stress étant maximale, la pression scolaire peut être extrêmement mal vécue. Mais les tensions familiales restent ce qui est le plus dur pour eux. Ils peuvent alors chercher à s'anesthésier avec du cannabis ou intensifier leur ivresse de pouvoir sur les jeux vidéo. C'est aussi la saison des premières amours et des premières ruptures, douleur. Il porte son pantalon sous les fesses parce qu'il veut se différencier tout en restant semblable à son groupe d'affiliation. La motivation sociale est à son apogée. Les ados se tournent vers leur père et c'est la période de toutes les tentations, de tous les dangers. Scooter, drogue, alcool, sexe. Tout cela terrifie les parents qui finalement sont soulagés de le savoir dans sa chambre, même si c'est devant un écran. Elle m'habille. Quand leur fille atteint ses 15 ans, les mères ont tendance à remettre des jeans et à se remaquiller. Certains ont conclu qu'elle se mettrait en compétition avec l'ado et n'arriverait pas à se voir vieillir. Ça arrive. C'est surtout que la focalisation sur le maternage s'estompe. Nous redevenons plus femmes que mères. Et puis, sont-ce nos neurones miroirs qui sont en cause? Tous les humains ont tendance à l'imitation. Dans la période t-shirt de nos enfants, nous avions tendance à en porter nous-mêmes. Dans la période mini-jupe, les nôtres aussi raccourcissent. Et nos filles nous y encouragent. Ce sont souvent elles qui nous habillent. Elles aiment que nous soyons belles. Accepter de se faire relooker par son ado, c'est tisser de la complicité avec elle. Quand nous accueillons ainsi ses choix, nous les validons. Laissons parler ceux qui disent que nous serions alors en compétition avec nos gamines. Il ne supporte pas qu'on le regarde. Le thalamus, recevant les informations visuelles, les transmet à l'amygdale. Chez l'adulte, le cortex préfrontal interprète les signaux émotionnels et tempère l'amygdale. Chez les adolescents, le cortex préfrontal n'étant pas mature, la réaction de l'amygdale est directe et rapide, défense. Leur cerveau ne donne sens aux émotions lues sur le visage d'autrui qu'après avoir ressenti l'alerte. D'où l'interprétation de tout signal émotionnel comme hostile ou porteur de danger. Tout le monde m'en veut. Pas d'escalade. Pas de surprotection non plus. Évitons de rajouter du stress au stress en réagissant exagérément. Respiration. Elle discute sans fin, ses projets aboutissent peu. La zone limbique atteint sa pleine maturité et son activité maximale, mais la myélinisation des zones préfrontales, responsable de la planification et du contrôle des impulsions, n'en est qu'à ses débuts. Les jeunes discutent ensemble de toutes sortes de projets de sorties, de fêtes, de soirées. Ces conversations, ces « et si » exercent leur cerveau à la planification, à l'anticipation, à la résolution de problèmes. Leurs lobes frontaux sont en train de maturer, ils les exercent. De la même manière que le bambin d'un an qui vient de découvrir la marche veut marcher sans cesse, marcher pour marcher, pas pour aller quelque part, l'adolescent veut se servir de ses nouvelles capacités d'anticipation, de réflexion et de planification, pas forcément pour réaliser quelque chose, juste pour le plaisir de l'exercice. Je réalise que ce temps de discussion n'est ni aussi stérile, ni aussi improductif que je le craignais. Je respire et je la regarde entraîner son cerveau avec tendresse et respect. Le résultat n'est pas dans la tenue d'une éventuelle fête, mais dans ce que mon ado aura vécu et appris dans ses échanges relationnels et négociations. C'est le processus qui est important, pas le contenu de la discussion. Elle poste sans arrêt des selfies sur les réseaux sociaux. De quoi j'ai l'air? Prenons une photo. Wouh, je suis super mignonne. Elle s'obsède autour du moindre bouton sur son visage ou amas graisseux sur ses hanches. Une adolescente a tendance à se regarder, à s'auto-évaluer. Elle est en représentation. Une étude a montré qu'une ado se juge plus attirante sur un selfie que sur une photo prise par autrui. Peut-être parce qu'alors elle sourit et a le contrôle sur son image. Les selfies améliorent l'image de soi, mais ils réduisent la liberté. Sur les réseaux sociaux, chacune est tout sourire. Avant, les filles confiaient leurs émotions, leurs doutes, leurs douleurs à leur journal intime. Peu à peu, elles construisaient leur intériorité, faisant reposer leurs sentiments d'identité sur leurs sensations, leurs émotions, leurs pensées personnelles. De nos jours, l'extériorité est privilégiée, renforçant la tendance à l'auto-objectivation. L'ado se pose la question « de quoi j'ai l'air ?» plutôt que « qu'est-ce que je ressens ?» Or, les humains sont des animaux sociaux qui ont tendance à se conformer au groupe et à éteindre leur personnalité propre pour être acceptés. Honte et anxiété ne peuvent qu'augmenter, incitant à toujours plus de conformisme. Le risque est de ne plus montrer qu'une image de soi répondant aux attentes supposées des autres. Et parfois, à finir par croire à cette image affichée, à force d'étouffer ses sensations interoceptives, ce qui permet de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, elle peut ne même plus les percevoir. Compensons la tendance au conformisme social en l'incitant à oser avoir des goûts différents des nôtres, à explorer, à varier, tant dans ses vêtements que dans ses musiques. Le sentiment d'identité se dessine peu à peu. Elle va passer par diverses étapes d'identification à divers groupes. Elle enfilera chaque fois un nouveau style, s'y sentira plus ou moins bien. Si nous critiquons un style, elle risque de le maintenir, voire de s'y enfermer par opposition, pour paradoxalement retrouver sa liberté. Quand elle se pose la question de son apparence, invitons-la à se poser la question de son ressenti. Par exemple, dans un magasin, prolongez la réflexion. « Je n'aime pas beaucoup cette robe, mais toi tu l'aimes, tu la prends. Avant de me faire plaisir, c'est important que tu te fasses plaisir à toi, que tu te sentes bien. Tu es dans une phase d'exploration de ta personnalité. C'est important que tu écoutes ce que tu sens à l'intérieur de toi et non pas ce que les autres, moi ou tes copines, pensent. Tu as le droit d'être toi. Et je t'aime tout pareil, quel que soit ton vêtement. » Il me critique. À la fin d'une discussion en famille, votre fils vous fait la morale. Si tu avais une autre histoire, si tu avais eu une autre enfance, si tu étais née dans une autre famille, tu penserais différemment, maman. Quand il était petit, il nous écoutait, si, si, et il nous croyait. Désormais, il peut nous sembler qu'il nous contredit sans cesse sur toutes sortes de sujets. Nous croyons qu'il s'oppose à nous. En réalité, il découvre la relativité. Il apprend à penser, à jongler avec les idées. Il explore. Il commet encore toutes sortes d'erreurs de jugement. Mais rectifier chaque fois ne pourrait que lui faire perdre confiance en lui ou en nous. Quand il était petit et que ses cubes tombaient, nous l'encouragions à recommencer. De la même façon, nous pouvons l'encourager à développer ses capacités d'abstraction, lui poser des questions pour l'inciter à aller plus loin encore dans son raisonnement. L'enjeu n'est pas le vrai et le faux, mais de muscler sa capacité à manier les hypothèses et les déductions, à considérer un même problème depuis une multiplicité de points de vue. Elle prend le contre-pied de mes valeurs. Lorsque vous exprimez une idée à votre fille, elle semble systématiquement penser le contraire. « Mais moi, attends, jamais de la vie je ferai comme toi, c'est carrément pourri !» Ce qui vous donne l'impression d'avoir tout raté. Je ne supporte rien qui me rappelle mon enfance ou ce qui me différencie des copines. J'en ai marre d'être différente. Mes copains se moquent de moi.
Remettre en cause idées et valeurs familiales est une étape de son parcours d'individuation. Sinon, Comment saurait-elle si ses valeurs sont vraiment les siennes ou si elle n'est qu'enfant soumise? Elle explore la relativité avec toute la liberté et l'angoisse que cela génère. Elle expérimente pour pouvoir redécider de manière autonome. Pas de stress. Ce qu'elle assène avec conviction à 15 ans ne constitue pas forcément les valeurs selon lesquelles elle vivra plus tard, à moins que le parent ne s'y oppose. L'ado peut se croire obligé de les défendre et risque donc de les entériner. Plus le parent s'oppose, plus l'ado aura besoin de renforcer ses convictions plutôt que d'explorer plusieurs possibles et de réfléchir. Quand nous voyons notre enfant s'éloigner de nos convictions, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres, nous pouvons avoir l'impression d'avoir tout raté. Mais c'est justement notre réussite. Notre enfant est suffisamment en sécurité pour oser explorer et penser par elle-même. Toute construction de soi pour être un individu nécessite une errance exploratoire personnelle. Il traîne toute la journée entre copains. Votre fils passe son temps dehors avec ses copains. Excédé, vous le lui faites remarquer. Tu n'as que ça à faire, traîner toute la journée. Les adolescents passent beaucoup de temps à traîner ensemble. La réorientation du circuit d'attachement leur fait éprouver comme une nécessité intérieure de s'éloigner de leur famille et de se connecter à d'autres jeunes. Des groupes d'appartenance se dessinent, les jeunes forment des bandes auxquelles ils s'identifient et grâce auxquelles ils forgent leur sentiment d'identité. On parle d'identification réciproque. Traîner avec tel ou tel groupe permet de se situer et, à l'intérieur du groupe, de tester les relations humaines. Les ados tissent de nouvelles amitiés, lesquelles, selon les scientifiques, sembleraient prédictives de bien-être, de longévité et de bonheur toute la vie. Vous, les adultes, il faut toujours que tout ce qu'on fait soit efficace. Je veux vivre, moi. Ce n'est pas parce que les attachements se diversifient que nous devons disparaître de leur vie, bien au contraire. Maintenir les rituels familiaux, organiser des soirées jeux de société ou vidéos en famille, nourrit la base de sécurité qui permet à l'oiseau de voler de ses propres ailes, tout en n'étant pas animé d'un besoin de transgression et de provocation. Il ne sait pas s'organiser et compte sur nous. Votre fils vient vous parler d'un événement qui semble l'intéresser. Il y a un concert des 21 Pilots, j'ai vraiment envie d'y aller. Les adolescents sont très ambivalents. Ils ont beaucoup de mal à se décider, les enjeux sont si complexes. Ils doivent intégrer toutes sortes d'informations sociales. Qui y va? Qui aime ce groupe? Avec qui il en a parlé? L'image qu'il aura s'il y va? Cette ambivalence semble surréaliste à nos yeux d'adultes. Nous savons si nous avons envie ou pas d'aller ici ou là. Pour les adolescents, prendre une telle décision présente un risque social. S'ils n'organisent pas tout à l'avance, c'est peut-être qu'ils hésitent à prendre la responsabilité d'y aller ou non. Ils laissent faire le destin. Pourtant, ils s'étonnent quand vous lui apprenez que tout ne se passera pas simplement. Quoi ? Vous ne pouvez pas m'emmener au concert le 20 ? Je ne suis pas ton esclave, toujours là pour tes besoins. La phrase est familière ? Elle peut surgir de notre bouche lorsque l'ado se réveille en réalisant qu'il n'a rien prévu pour son transport. Inutile d'attendre une demande claire, c'est notre job de l'aider à clarifier ses désirs et besoins et d'anticiper. Avant de passer au concret du transport, évoquons ensemble le concert, mais surtout ses copains et leurs tergiversations. Mesurons que tout le groupe a sensiblement le même âge, le même cerveau, et partage donc de semblables difficultés à la décision. Les enjeux sociaux sont déterminants à cet âge et expliquent nombre de comportements que nous pourrions prendre pour de la passivité.